Merci Jean-Roger Billon. Bonsoir à tous. Yacouba Ouédraogo effectivement avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont déjà en ligne pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Elie et bonsoir Yacouba. Bonsoir à tous.
J'ai salué également Élisée Nkpatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba Ouédraogo et bon retour à toi à Washington.
Merci beaucoup. Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et nous retrouvons bien évidemment Amdine Sia Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bon retour parmi nous.
Merci beaucoup. J'étais toujours avec vous dans ce programme de ce lundi 19 février 2024. Eh bien, les nouvelles dates de la prochaine CAN Maroc 2025, les matchs interclubs des compétitions africaines qui vont commencer à partir de vendredi et les éliminatoires des JO concernant le foot féminin. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Je disais, la CAF a donné son accord de principe pour que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se tienne en juillet-août 2025 au Maroc. Les dates actuellement proposées sont du 20 juillet au 16 ou 17 août 2025. Et selon un responsable du comité en charge des compétitions de la CAF, cet accord a été trouvé sous l'égide de la FIFA après des pourparlers entamés il y a plusieurs mois et qui se sont intensifiés lors de la dernière édition conclue ce mois-ci en Côte d'Ivoire. Amine Birouk, on dira encore la FIFA selon certains.
Encore la FIFA selon certains, parce que le plan c'était que la CAN se déroule en juillet. C'était ce qui avait été annoncé par la candidature marocaine. Et lorsque le Maroc avait obtenu la majorité ou l'unanimité des suffrages au moment de l'annonce de l'attribution de la CAN 2025, il y a eu un os. Et cet os, c'est la Coupe du Monde des clubs qui a été instaurée par la FIFA et qui n'était pas, officielle. La date ayant été choisi par la FIFA qui est du 15 juin au 13 juillet, est venu un peu semer le doute. Il y a eu des négociations, ça négocie de manière très serrée parce que la FIFA ne voulait pas d'une compétition qui puisse venir à cheval ou chevaucher son mondial des clubs, qui est peut-être une poule aux œufs d'or aussi importante, sinon plus que la vraie Coupe du Monde. Et la proposition était que la CAN puisse se dérouler pendant l'hiver, c'est-à-dire aux dates habituelles, janvier-février 2025. Or, le problème, c'est que le Maroc est en train de reconstruire ses stades pour pouvoir les mettre à jour dans l'optique de la Coupe du Monde 2030. Les stades ne seront remis qu'à partir d'avril-mai. Et du coup, il a fallu négocier et trouver une solution qui puisse se satisfaire toutes les parties. Visiblement, c'est en bonne voie. Maintenant, il va falloir que ça se fasse aussi avec l'assentiment des clubs européens, dont la plupart, les plus huppés, disputeront la Coupe du Monde des clubs. Ça veut dire que certains joueurs ne vont pas avoir de vraies périodes de repos, ni de vraies périodes de préparation d'avant-saison, puisque ça se chevauchera avec Coupe du Monde des clubs, CAN et reprise des championnats européens. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau pour tous ceux qui vont enchaîner Euro 2024 et Copa América 2024 avec les JO qui auront lieu cette année à Paris à partir de fin juillet.
Et justement, Amine le disait, la FIFA organise son premier grand mondial des clubs à 32 équipes du 15 juin au 13 juillet ici aux États-Unis. Alors Jules, la CAN va retrouver ses années impaires, mais une fois de plus, la compétition subit le dictat du calendrier mondial.
Oui, surtout en retrouvant d'abord les années impaires, c'était une bonne nouvelle pour la CAN, dans la mesure où on peut disposer de tous les joueurs et qu'ils n'auraient pas de pression de leur club employeur à ce niveau. Mais là, avec cette nouvelle compétition que le foot business nous a imposée, et il est disons que fort à craindre que nous puissions une fois de plus subir le dictat des grands clubs du monde de la finance dans le football mondial et finalement avoir des compétitions qui sont plus ou moins tirées par les cheveux. Alors c'est à nous d'être vigilants et à essayer de faire passer nos exigences également nous les Africains.
Voilà, la lutte continue donc. Par ailleurs, les qualifications pour la CAN 2025 n'ont toujours pas commencé, il faut le rappeler. Un tour préliminaire est programmé du 18 au 26 mars selon le calendrier de la CAF. La CAN 2027, elle, doit être organisée dans trois pays le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Alors Amdine, ce report en quelque sorte de quelques mois, bonne ou mauvaise hein, par rapport aux équipes qui se seraient soumises à une compétition serrée, il faut le rappeler, un an à peine, la CAN 2023 terminée.
Oui, oui, moi je pense que c'est une bonne chose. D'abord, l'Afrique doit s'organiser, l'Afrique doit pouvoir respecter son calendrier. Puisque si vous regardez, hein, les deux dernières CAN hein, ont été des CAN décalées. Car la CAN 2021 qui s'est jouée en janvier-février au Cameroun, mais c'était pas la CAN 2022, c'est la CAN 2021. Cette CAN qui vient de se terminer, officiellement, c'est la CAN 2023. Donc, il faut vraiment que la CAF puisse maîtriser son calendrier pour que les compétitions puissent bien se passer. Moi, je pense que durant l'été, c'est vraiment la période idéale pour organiser la grande messe du football continental, puisque c'est la fin des championnats européens. On a énormément de joueurs qui jouent au niveau de ces championnats et on puisse organiser une CAN où tous les joueurs africains puissent venir sans pression. Maintenant, comme vous l'avez dit, on décale, on essaye de faire les choses comme ça parlait. Ok, c'est bien. Faisons les préliminaires comme ça, c'est déjà programmé au mois de mars durant la fenêtre FIFA et essayons de respecter les choses pour que les sportifs puissent en tirer bénéfice. Yacouba.
La CAF justement a annoncé que le tirage au sort du tour préliminaire de la CAN 2025 aura lieu demain, mardi 20 février. Et ce tirage concerne essentiellement les 8 équipes les moins classées du récent classement FIFA. Elles s'affronteront en aller-retour au cours de la prochaine fenêtre internationale du 18, je le rappelle, au 26 mars 2024. Et justement, dans le cadre de ce tirage, dans le pot 1, on retrouve la Somalie, Djibouti, Sao Tomé-Principe et le Tchad. Et dans le pot 2, Île Maurice, Soudan du Sud, Libéria et Eswatini. 4 billets sont en jeu et les 4 sélections qui remporteront ces oppositions vont s'ajouter, disons, aux 44 nations exemptées de ce premier tour pour la phase de groupe des préliminaires. Et donc, cette phase démarre en septembre, la phase de groupe justement. Selon une correspondance de la CAF envoyée aux fédérations et durant plusieurs mois, les nations donc vont s'opposer pour arracher les précieux billets pour la CAN 2025. Voilà, autre nouvelle à peine tombée. Emers Faye est confirmé à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire par le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yassine Diallo. Élisée, c'est une nouvelle qui était attendue.
Et bien évidemment, hein, compte tenu de cette grande performance qu'il a réalisée durant la CAN ivoirienne, vous imaginez la Côte d'Ivoire qui n'a obtenu que 3 points lors de la phase de poule sur 3 matchs, une seule victoire, c'est la victoire inaugurale hein, contre la Guinée-Bissau, puis après 2 défaites qui ont complètement composté les chances de qualification de la Côte d'Ivoire, donc il aura fallu la victoire du Maroc lors de son dernier match hein, afin de faire qualifier les Ivoiriens et puis depuis la Côte d'Ivoire a enchaîné des prestations ici celle jusqu'en finale en battant finalement le Nigeria, le voisin béninois en finale 2-1. Vous imaginez, c'est stratosphérique, c'est extraordinaire, c'est inédit quoi. Donc aujourd'hui ce n'est que justice puisque avant même qu'il ne soit nommé à la tête de cette sélection ivoirienne, vous imaginez que la fédération pensait déjà à Hervé Renard, celui là même qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2015, si j'ai bonne mémoire. Donc, vous imaginez, donc, Hervé Renard, qui était proche de scier avec la Côte d'Ivoire et paf, après, eh bien, MS Faye a été confirmé, adjoint de celui-là même qui sera bientôt nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui a été battu hier par le Stade Brestois. Donc, vous imaginez, donc, déjà, MS Faye a fait une très bonne prestation. Donc, on verra après confirmation à ce poste-là, puisque l'objectif, le prochain objectif pour la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr de se qualifier pour la Coupe du Monde qui aura lieu du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Et
justement, parlant de la Coupe du Monde, alors Jules, les Ivoiriens attendent encore plus de Faye, et Élisée l'a évoqué, notamment une participation à la prochaine Coupe du Monde.
Oui, bien sûr, ce qui est très normal. Mais il faut peut-être, disons que, apporter un petit éclairage pour pour dire que au niveau des équipes nationales, on a plus besoin des coacheurs que des entraîneurs. Donc les joueurs viennent, ils connaissent les ABC, les fondamentaux et tout le reste, ils sont les joueurs aguerris. Mais maintenant, comment les faire jouer pour qu'on gagne le temps d'une rencontre, ou alors inverser une rencontre? C'est là où Faye a fait la différence avec Gasset. Clairement, il a fait la différence. Donc, c'est de ce genre de sélectionneur qu'on a besoin pour essayer d'atteindre des objectifs jusque-là qu'on n'avait pas encore atteints. Donc, moi, ce n'est pas une surprise. C'est une bonne chose qui a été faite. C'est toujours un entraîneur africain de plus dans une grande équipe africaine.
Justement, je rebondis sur cela. Un entraîneur africain dans une grande équipe africaine. Alors, Amdine Sy, le Sénégal a Aliou Cissé depuis fort longtemps, une dizaine d'années si je n'abuse. Est-ce que Emès Faye serait définitivement la solution à cette équipe ivoirienne qui a toujours eu du talent, mais qui a toujours manqué le coaching?
Je pense que tout dépend, hein, tout dépend de ses résultats. Puisque, comme vous le savez, en sport vraiment, il n'y a pas de sentiment. Je peux donner le cas d'Aliou Cissé, c'est vrai, il est venu un peu comme Ernest Faye, après l'échec de beaucoup de sortiers blancs. Aliou Cissé est venu sur le banc du Sénégal, plus exactement le 15 mars 2015. Il est venu, mais il a réussi à faire ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait. Puisque avant Aliou Cissé, le Sénégal ne parvenait plus à sortir du premier tour. Donc lorsqu'il est venu en 2017 pour sa première CAN, il a réussi à faire sortir d'abord le Sénégal au premier tour pour se qualifier en quart de finale, battu par le Cameroun après la série de tirs au but. Après 2017, il y a eu 2019, il est allé en finale. 2021, il a pris la coupe. Donc ce sont ces résultats qui ont poussé les dirigeants sénégalais à le laisser. Pour Ernest Faye, ce sera la même chose. Il a réussi un exploit extraordinaire en faisant qualifier quand même, en remportant même ce trophée. Et il a fait quand même des résultats. Puisque à part le Sénégal que la Côte d'Ivoire a battu après la série de rugby, les autres matchs, ils les ont gagnés sur le terrain en renversant l'adversaire. Donc c'est naturellement qu'on puisse le confirmer. Maintenant, tout dépend de ces résultats. Et je le souhaite le meilleur, puisqu'on aime voir des Africains qui ont déjà joué se reconvertir en technicien, avoir des résultats, puisque ce qu'on appelle les sorciers blancs ne sont pas plus talentueux que les techniciens africains, mais les résultats comptent énormément. Yacouba.
Alors, pendant ce temps au Maroc, le sélectionneur Walid Regragui, il fait son mea culpa, Amine Birouk, pardon.
Oui, c'était vendredi à la télévision nationale sur la chaîne sportive où on a essayé de faire en quelque sorte le débrief de cette CAN, essayer de comprendre pourquoi le Maroc a manqué ce rendez-vous en Côte d'Ivoire alors qu'il semblait figurer parmi les grandissimes favoris, d'autant plus que la Coupe du Monde avait conforté Walid Regragui dans ses certitudes. Donc justement, il a essayé d'expliquer les raisons de cet échec et surtout, il a défendu bec et ongle ses choix, qui étaient des choix assez contestés par l'opinion publique marocaine. Le fait de compter sur un Mazraoui qui ne serait prêt que pour le quatrième match et le titulariser d'entrée dans un match couperet contre l'Afrique du Sud, le fait d'avoir fait jouer Ziyech qui s'est blessé contre la Zambie, et puis d'avoir amené un Bouffal qui était à peine qui venait à peine de relever d'une blessure de longue durée. Donc tout cela a été je dirais expliqué calmement par Walid Regragui. Les plus sceptiques campent sur leur position et demandent à Regragui des comptes. D'autres lui donnent un blanc-seing, étant donné que la Coupe du Monde au Qatar je dirais que la Coupe du Monde au Qatar ne s'est conclue qu'il y a quelques mois, hein, il y a un an et demi exactement. Donc c'est à lui de rebondir, d'autant plus qu'il va avoir la redoutable mission de mener l'équipe du Maroc lors de la CAN que le Royaume chérifien va organiser. L'objectif, c'est aussi de comprendre pourquoi la CAN suit le football marocain depuis 1976. Et a priori, quelques remaniements dans le staff et quelques choix forts au niveau de la sélection de joueurs devraient intervenir, et ce, dès le prochain rassemblement, la prochaine date FIFA, où le Maroc sera confronté à Agadir le 22 mars à l'équipe d'Angola et le 26 du même mois à la sélection des Morabitons de Mauritanie.
Justement, parlant toujours des sélectionneurs à la tête des formations africaines. Alors, Élisée, on a vu la sortie récente de Oussam Hassan, le nouvel entraîneur de l'Égypte, qui pointe du doigt en quelque sorte les allers-retours de Mohamed Salah en sélection, qu'il trouve, le joueur bien sûr de Liverpool, qu'il trouve pas très concentré. Qu'est-ce que vous pensez d'une sortie pareille pour un entraîneur qui vient justement d'être nommé à la tête de la sélection égyptienne?
Bon, c'est un signal sport, hein, Yacouba, il faut le reconnaître. Encore que Oussam Hassan, c'est pas n'importe qui, hein, quand on parle du football égyptien, vous le connaissez très bien, c'est la grande star, hein, de cette sélection qui avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1998 du côté de la Côte du côté de Burkina Faso, votre pays. Donc, bien vous évidemment. Imaginez Oussam Hassan, c'est pratiquement l'image du national à la Ligue du Caire. Ce club-là, même qui a permis à la sélection égyptienne de remporter 3 Coupes d'Afrique d'affilée, 2006, 2008, 2010, voilà, j'y arrive enfin, non? C'est une très belle image de cette sélection égyptienne. Ici, là, déjà le signal fort, c'est parce que le comportement de Mohamed Salah ne correspond pas du tout à l'objectif de cette sélection égyptienne qui a remporté plus de Coupes d'Afrique des Nations. Vous imaginez Mohamed Salah blessé en Côte d'Ivoire et que une semaine plus tard joue déjà avec son club à Liverpool. Vous imaginez, c'est pratiquement un manque de respect à son pays. C'est vrai que ce sont les clubs qui les paient, on ne refuse pas. Mais à des moments donnés, il faut savoir défendre son pays puisque après tout, vous êtes d'origine, vous êtes originaire d'un pays et il faudra que ce ne soit pas uniquement les performances du club qui entrent dans les palmarès de ces joueurs-là. Il faudra défendre vaillamment les couleurs de son pays puisque après tout, Mohamed Salah est d'origine égyptienne et à des moments donnés, l'histoire dira simplement que c'est vrai, il aura tout gagné en club, mais en sélection, il lui manque réellement la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Oussam Hassan a voulu... Oui, allô?
Oui, Élisée, Mohamed Salah n'est pas d'origine égyptienne, il est égyptien.
Voilà, il est égyptien. Voilà, donc à des moments donnés, l'histoire dira qu'il a tout gagné avec Liverpool, mais en équipe nationale, c'est ce qui va lui manquer. Aujourd'hui, quand vous voyez, vous avez vu Didier Drogba en Côte d'Ivoire, et de toute façon, il supportait sa sélection, de toute façon, il supportait son pays. On sentait que vraiment, c'est vrai, il est du cœur avec son pays, il est du cœur avec son pays, mais l'histoire retiendra simplement qu'il aura tout gagné, mais pas la Coupe d'Afrique des Nations. Avec son but. Donc, Mohamed Salah doit se reprendre et se mettre en évidence puisque son nouvel entraîneur ou son nouveau sélectionneur a tout à fait raison.
Parlons à présent du mondial de beach soccer ou du football de sable. Le Sénégal s'est repris lors de la deuxième journée des matchs de poule, battu d'entrée par la Biélorussie. Les champions d'Afrique en titre ont rebondi en s'imposant devant la Colombie 5-3. Ibrahim Diagne Chita, manager de l'équipe du Sénégal.
Bonsoir, c'est pas bonjour, hein, Amadine. Malheureusement, j'ai vu un peu tard. La question, ben, on vient de terminer notre deuxième match contre la Colombie, hein, un match pas du tout facile, mais match que nous avons pu gagner encore avec encore le mental, hein, qui nous habite, parce que quand même mine de rien on nous menait par 2-0. Ben, nous sommes parvenus à égaliser à 2-2. Ensuite, ils sont revenus encore pour nous mener par 3-2. On est revenu à 3-2. Et ensuite, on a marqué le 4e et le 5e but. Parce que pour ce match-là, il nous fallait impérativement la victoire pour qu'on puisse quand même espérer quand même jouer une finale contre le Japon et nous qualifier pour les quarts de finale. Parce qu'avec le Japon, on a maintenant presque le même nombre de points. Je crois que c'était un match vraiment pas du tout facile. Une bonne équipe quand même de la Colombie qui vient pour la première fois de participer quand même à un tournoi de Coupe du Monde, mais qui quand même a joué toutes ses chances, que ce soit contre le Portugal, excusez-moi, contre le Japon pour la pour le premier match et contre nous pour le deuxième match. Donc, comme d'habitude, voilà, on a mis en place quand même.